You know you're a feminist.
It was not a compliment.
Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté.
They wanted to silence one Malala, but instead, now thousands and hundreds and millions of Malalas are speaking and they're fighting for their rights.
Il n'y a rien de pire que le viol.
On se lève et on se casse.
Bienvenue sur Charbons Ardents, votre rendez-vous du midi, tous les deuxièmes jeudis du mois. Pendant une heure, Chat et Mareuil vous parlent tous les mois des sujets qui fâchent. En partant d'un témoignage sur les violences quotidiennes, on décryptera ensemble un exemple médiatique avec à la clé des outils pour comprendre le militantisme d'aujourd'hui. Charbons Ardents, c'est sur Prune, 92 FM, et c'est maintenant.
J'ai souvent ressenti une sensation physique très pénible qui, je le sais, est liée à la perception que j'ai de mon corps et de moi-même dans le monde. Cela se manifeste par un désir incontrôlable de m'évader de mon corps, de vouloir littéralement m'en éjecter, fuir une présence honteuse et douloureuse. C'est un besoin de me délivrer d'une réalité inexprimée, indicible, qui menace de m'envahir et de me tuer à petit feu. Quand je pense ce désir de fuite, je me demande si je suis seule à ressentir cela. Quand je regarde autour de moi et observe de nobles femmes souffrant en silence, je réalise que ces sentiments personnels sont partagés. Chaque jour, partout, des millions de femmes se livrent à des actes d'autodestruction contrôlés ou non, ritualisés et routiniers. Nous nous privons en silence, nous nous affamons, jeûnons, faisons de l'exercice à outrance, reliant le bien-être émotionnel à un idéal hors d'atteinte. Nous nous assommons également avec des drogues ou de l'alcool, nous nous tailladons, contusionnons, brûlons la peau, ou nous nous dissocions de notre corps dans l'espoir de survivre en lui échappant entièrement. La plupart d'entre nous supportons cette souffrance en silence, craignant d'être considérés comme folles ou malades. Pourquoi sommes-nous si nombreuses à infliger de tels châtiments à nos corps? D'où viennent ces sentiments de dissociation, cette lutte, cette douleur? Je pense qu'il s'appuie sur des expériences de vie personnelle qui ont entraîné un dégoût de soi et de son corps. En même temps, je pense que ces expériences personnelles en question ont un sens politique profond. Ces sentiments proviennent selon moi d'une projection collective des tares de notre société sur le corps des femmes et s'enracinent dans une tentative séculaire de contrôler et de coloniser les femmes. Nos ressentis collectifs de dégoût, de honte et d'aliénation sont les retombées d'une guerre, un conflit mené sur le terrain de nos corps. Ce conflit, qui se joue sur le terrain de ce qui nous définit en tant que femmes, est mené à travers la régulation, le contrôle, la suppression et l'occupation de pratiquement tous les aspects de notre être physique, sexualité, tenue, apparence, comportement, force, santé, reproduction, silhouette, taille, espace, expression et mouvement. Les effets de cette guerre sur nos corps, nos pensées et nos états d'esprit sont semblables aux effets de violence sur le terrain de n'importe quelle autre guerre. Souffrance, chaos, famine, mutilation, dévastation et même mort. Si cette analyse paraît trop extrême, trop drastique, trop radicale, trop enragée, pensez aux legs culturels et personnels que nous partageons en tant que femmes. Pensez au nombre de femmes qui vivent au quotidien sous la contrainte et la violence, à celles qui sont écrasées par le poids de la honte et du mépris de soi, à celles qui ne peuvent vivre librement et pleinement dans les limites de leur peau, qui sont aliénées dans leur corps et vivent en dehors d'elles-mêmes. Souvenez-vous des 38% de femmes qui portent les cicatrices d'abus sexuels, des 25% qui vivent blessées par le viol, des 80% qui ont été tailladées ou couvertes d'hématomes par des actes quotidiens de violence sexuelle. Et souvenez-vous des innombrables femmes qui sont violées, violentées et menacées au moment où vous lisez ces lignes. Et pensez à l'hostilité qui nous entoure, aux images dévalorisantes et à tout ce qui témoigne de notre statut inférieur, à la façon dont chacune d'entre nous réagit à cela, par les actes intimes d'autodestruction auxquels nous nous livrons et par la honte que nous portons dans nos corps comme un lourd fardeau qui nous lie et nous enchaîne à un ennemi inconnu. Rappelez-vous, celles d'entre nous pour qui la nourriture représente un poison, qui ne peuvent vivre dans leur corps, qui se privent elles-mêmes, sa femme, et font tout ce qui est en leur pouvoir pour atteindre un idéal de plus en plus artificiel, changeant et réducteur. Pensez aux femmes qui ont trouvé refuge dans les vapeurs mornes et sombres de l'alcool et des drogues, perdues dans une spirale d'autodestruction, et à celles d'entre nous qui fuient la réalité, qui sont fragmentées, divisées, déchirées, et qui sombrent littéralement dans la folie. Et pensez à la femme qui se taillade la peau, qui se blesse et se brûle de rage et de peur parce qu'elle n'a pas les mots pour dire son tourment, Pensez à la femme qui se gave, se fait vomir et se prive de nourriture parce qu'elle ne connaît pas d'autre moyen pour exprimer sa douleur et son désespoir. Et souvenez-vous de la femme qui a survécu au viol, mais qui succombe à la guerre en mettant fin au cauchemar par l'acte définitif du suicide. Rappelez-vous ces femmes, vos sœurs, amies, voisines, connaissances, proches, collègues, mères, filles, vous-même. Rappelez-vous ces femmes et réfléchissez à nouveau à la métaphore de l'occupation. La haine des femmes, qui s'exprime à la fois dans les images et les actes de violence quotidiens, nous entraîne hors de notre corps. Elle nous fait perdre également la raison. La haine des femmes qui se joue sur le terrain de notre corps est dirigée contre nous précisément à cause de ce corps. En d'autres termes, cette haine s'enracine et se développe dans le corps féminin. Le corps féminin est devenu un champ de bataille de la guerre contre les femmes. Et le champ de bataille lui-même est devenu notre pire ennemi.
Le témoignage que nous venons d'entendre est extrait de l'ouvrage collectif « Mon corps est un champ de bataille » aux éditions Ma Colère.
Dans cette rubrique de Charbons Ardents, on vous parle système, on vous parle concept, vulgariser des idées pour se fournir des armes et devenir des génies mentales.
Le corps, seule propriété qui nous reste, par-delà la faillite, la ruine, la misère. Pourtant, on s'en passerait bien de cette enveloppe charnelle qui nous oblige à trouver à manger et un toit, à dormir, à continuer de respirer, envers et contre tout.
Alors on a parlé la dernière fois de violence, celle que subissent les femmes, de l'impossibilité mentale d'y avoir recours quand elles en auraient parfaitement le droit. Aujourd'hui, on va parler des procédés de dépossession du corps, c'est-à-dire ce travail de conditionnement qui nous amène à penser que le corps ne nous appartient pas réellement, mais qu'il se disperse entre un bataillon de gens qui sont plus ou moins bien intentionnés.
Peut-il réellement nous appartenir pleinement? On pourrait le croire, peut-être le croit-on vraiment, mais dans les faits. On nous conditionne dès l'enfance à ressentir les effets du pouvoir et de l'obéissance dans le corps.
Tout le monde a des souvenirs de ces moments où on est habillé contre notre avis, contre notre confort, contre notre gré, par nos parents, qui en plus nous chargent ensuite de la lourde tâche de rentabiliser l'investissement textile en évitant à tout prix de le salir. Personnellement, j'en venais à rêver d'être garagiste ou ramoneuse juste pour avoir le droit de me salir.
Moi, je voulais être bouchère.
Sexy. Sans suivre les premières moqueries, les premiers rejets, les premières appartenances basées uniquement sur les fringues et les apparences.
Les cheveux qu'on tire, qu'on tresse, qu'on attache, qu'on coupe sans demander notre avis.
Les bouches, les estomacs qu'on remplit de force, les traumas véhiculés par la fameuse phrase « finis ton assiette, merci la cervelle d'agneau qu'on te resserre au petit-déj », les poissons pleins d'arêtes ou les légumes maudits.
Moi c'était les choux de Bruxelles à la cantine. Et à côté du gavage forcé, les premières inquiétudes sur nos poids, à des âges où on s'en fout de ça.
Enfin, le corps, il est fragile, ce qui va nous confronter au danger de souffrir. Et quand on est enfant, ça vient des gifles, des fessées, ces fameux petits qu'on attrape par le bras, mets ton manteau, on s'en va. Pour les arrêter de courir, pour les arrêter de crier, les enfants secoués. Autant de moments de rappel dès l'enfance, ce petit corps que j'ai mis au monde m'appartient. Il est le point d'entrée par lequel j'imposerai ma vision de ce qui est bon pour toi.
Il y a aussi les bisous forcés, qui ne respectent pas le consentement de l'enfant. Hein. Fais un bisou à tata, et ben non, tata elle pique.
Et papy aussi.
Papy, il a les mains baladeuses en plus, berk. En grandissant, les menaces physiques s'estompent, enfin pour les chanceux et chanceuses qui échappent aux parents trop violents en tout cas. Mais les remarques se font plus acerbes sur nos tenues, leurs dangers, le fait qu'elles cristallisent les tensions intergénérationnelles.
Tout le monde a des souvenirs de grands-parents qui font des réflexions sur les trous dans les jeans et les strings qui dépassent.
Ma grand-mère avait recousu les trous du jean de ma cousine qu'elle avait payé une blinde et elle était furieuse. Comme on en a parlé la dernière fois, l'épineux sujet des fringues, c'est aussi le moment où la société fait savoir sans ambiguïté aux femmes que leur corps lui appartiennent. Le message implicite, c'est que si elles s'habillent trop léger, ce sont elles qui renoncent à leurs privilèges et leurs droits, les abdiquent et signalent au monde qu'elles sont des allumeuses disponibles au coït.
Alors apparemment, la culture occidentale du viol en est restée au stade du cul de babouin. Plus il est rouge, plus il y a moyen de moyenner.
Effectivement, il y a une étude sociologique qui montre que les hommes seraient plus attirés par des femmes habillées en rouge et que donc si on veut pécho, il faut qu'on s'habille en rouge. Plus une fille expose son corps, plus elle veut baiser, même combat. D'un autre côté, renoncer à vouloir s'habiller comme on veut pour suivre les injonctions parentales, c'est abdiquer aussi. Soit le corps féminin appartient à l'espace public, celui des hommes, soit il appartient à la sphère privée, celle du foyer et de la famille.
Un événement récent qui montre bien cette dépossession. En début de l'année scolaire dernière, notre cher ministre de l'Éducation, qui en connaît un rayon en matière de fringues, en témoigne le costume de guignol qu'il n'enlève jamais, pas même pour faire du sport, a fermement encouragé les initiatives des établissements qui souhaitaient changer leur règlement intérieur. Parce qu'il fallait à tout prix interdire les vêtements jugés trop courts et trop provoquant des jeunes filles. Pour leur protection, bien sûr, couvrons-les.
Ah, ou découvrons-les si elles sont musulmanes.
Seulement si elles sont musulmanes. Blanquer nous avait alors gâté de son patriarcal regard avec des réflexions du type, je cite, « Il suffit de s'habiller normalement ». Et tout ira bien, donc tout ira bien, petit fond de menace, auquel en plus s'ajoute un normativisme absolument outrageux et totalement affiché.
Expliquez-moi ce que ça veut dire « normalement », parce que les costumes des ministres chauves ne me paraissent pas normaux à moi.
À moi non plus. Personnellement, j'ai vu mon lot de raies de plombier dans ma vie, de fesses poilues qui dépassent, de molles kékettes urinant dans la rue, de bidabzères rutilant de sueur sur la plage et de jeans pire que taille basse qui découvrent l'intégralité du caleçon. Étrangement, ça n'a déclenché en moi aucune pulsion de viol de ces hommes exhibos. Est-ce que j'ai un problème, docteur ? Suis-je normale ?
Je ne suis pas sûre. D'un côté, le gouvernement nous matraque d'enlever les foulards des élèves musulmanes.
Qu'est-ce que ça peut bien leur foutre ? On se le demande.
Et de l'autre, ne demanderait pas mieux que de couvrir allègrement le corps des filles qui osent déambuler le nombril à l'air.
Faut dire aussi que c'est sacrément sexy et provoquant, un nombril chat. Que caror ?
C'est pas du tout le truc le plus sale de l'univers, non.
Programmé dès l'enfance ou dès l'adolescence à croire que d'autres ont leur mot à dire sur ce qu'on fait de notre corps, ce qu'on met à l'intérieur de notre corps, ce qu'on met sur nos peaux, la surface qu'on peut dégager, de nos cheveux, de nos organes génitaux.
Le corps féminin n'a pas le droit de citer. Alors déjà, ça veut dire quoi, avoir droit de citer ? Je précise tout de suite, citer, C-I-T-E. C'est la reconnaissance de droit civique d'une entité dans la collectivité. Ce qui est intéressant avec le corps féminin, c'est qu'il n'a pas le droit d'être cité non plus. On n'a pas envie d'en parler, on le stigmatise comme sale, lieu de péché et de tentation depuis la nuit des temps. Pas envie d'en parler, mais de le mater et d'y toucher, ça, pas de souci.
À condition qu'il ne pue pas, surtout de la chatte, ce serait l'angoisse, et qu'il n'ait pas de poils non plus d'ailleurs. Aujourd'hui, on se propose de faire un petit état des lieux de l'ensemble des injonctions et des conditionnements totalement contradictoires au milieu desquels se débat une femme d'aujourd'hui.
Non exhaustif, l'état des lieux, il y a trop d'injonctions, on va pas s'en sortir.
Mes yeux posés sur ton corps, ça me donne des idées. Je tourne le dos à la mort, tu combles le dos quand je l'ai décidé. L'amour c'est pas mon fort, des cœurs j'en ai un peu brisé. Mon ex me manque, c'est bizarre, on s'aimait quand on faisait. Tu fuis quand tu croises mon regard.
Un des exemples théoriques du jour sur lequel on va s'appuyer pour commencer, c'est la pensée marxiste reprise par Simone de Beauvoir, qui établit un lien entre le moment où on se sédentarise et les racines de l'exploitation du corps féminin.
En très très gros, ce que Simone de Beauvoir explique dans le deuxième sexe, c'est qu'il y aurait à un moment donné une corrélation entre le passage d'une société nomade à une société sédentaire, c'est-à-dire le moment où les humains arrêtent d'être en déplacement constant et le moment où ils s'installent, ils construisent des maisons, ils développent l'agriculture. Donc c'est aussi le moment où ils vont développer l'idée de propriété. Alors, comment ça se passe, cette corrélation qu'il y aurait entre ce moment-là et le moment où on se dit, bah tiens, les femmes sont inférieures. Alors, pour donner une vision un petit peu de ça, on peut penser au mythe de Gaïa, Gaïa la Terre, qui est créatrice de tout, y compris du ciel, qui s'appelle Uranos, mais qui se retrouve à un petit moment donné extrêmement oppressée, puisque ce fils qu'elle a, Uranos, ne cesse de la violer continuellement comme un lapin. Donc elle est posée sur elle et bim bam boum, ça y va. Donc au bout d'un moment, elle en a assez, elle se sent surexploitée.
Et on la comprend.
Et parce qu'elle est surexploitée, elle fait appel désespérément à Cronos, son fils, le temps, qui se dit, bah tiens, je vais couper les couilles de mon père. Les couilles tombent dans l'eau et de ses couilles naît Aphrodite.
Ah donc en fait, c'est son père, mais c'est aussi son frère.
Exactement, c'est le bordel. Hein. Et puis c'est une vision de la SVT assez particulière sur la reproduction.
Paye ton arbre généalogique là dans
exactement,
ce cas-là.
Et paye aussi ta manière de faire des bébés. Hein. Une couille qui tombe dans l'eau, ça donne la déesse de la beauté. Bon, ce sera pour une autre fois de décrypter un mythe aussi hypergé. Mais en l'occurrence, ça montre bien cette idée qui va très rapidement s'instaurer que la graine est dans la couille.
Le passage d'une société nomade à une société sédentarisée serait donc la base du patriarcat, des préjugés qui tentent à laisser la femme à la maison. En passant d'une situation nomade à une situation sédentarisée, les clans pouvaient davantage s'autoriser les naissances, qui faisaient sans doute jusque-là l'objet d'un contrôle strict. On a même parlé d'infanticide pour limiter les naissances, car les enfants rendaient la vie nomade plus dangereuse. Dans la société sédentarisée, la femme, plus souvent enceinte et entourée de plus d'enfants, participe donc moins aux travaux collectifs, qui vont de plus en plus être réservés aux hommes.
Exactement.
Surprise.
Puisque donc les tribus ne peuvent pas se déplacer avec des femmes enceintes et de la marmaille en bas âge, le contrôle des naissances est plus strict quand un clan est nomade que quand il est sur place. En devenant sédentaires, les tribus sont également moins chasseurs-cueilleurs, donc c'est le moment où ils pratiquent l'agriculture. Et c'est là que, dans leur pensée, on va passer à quelque chose qui est proche de cette affaire des testicules d'Uranos. Ils se mettent à observer que quand ils plantent une graine dans la terre, il y a des végétaux qui poussent, et donc ils se disent pas que c'est l'action conjuguée de la terre et de la graine, ils se disent juste tout est dans la graine, et ils appliquent ce mode de pensée au ventre de la femme en se disant bah en fait le bébé il vient entièrement de moi, mais j'ai besoin d'un four à pain pour finir ma tambouille, et donc la femme devient pur réceptacle de l'enfant qui en réalité ne vient que du père. Et donc c'est aussi là qu'on va avoir le développement de plusieurs cultes d'ailleurs du phallus à travers le monde, culte du phallus, culte des dieux masculins, et donc première trace des dessins de Zizi dans les toilettes.
Pour finir, la sédentarisation voit également émerger des concepts plus forts de propriété, qui dit propriété, dit nécessité de la transmettre et d'établir des règles concernant l'héritage. Il faut alors faire un choix entre une politique patrilinéaire ou matrilinéaire, qui vient soit du père, soit de la mère, et, je vous le donne en mille, c'est le patrilinéaire qui l'emporte dans la plupart des cas, à la fois parce que ce sont plus souvent les hommes qui travaillent et qui défendent la terre qu'ils transmettent, c'est ce qu'on a dit un peu plus haut, et parce qu'ils considèrent que l'enfant est tout entier dans la graine, comme tu disais Mareuil, le sperme, et ils ne tiennent pas compte de l'ovule dont ils n'ont alors pas connaissance. Alors comment ça se traduit tout ça ?
Alors toute cette pensée sociologique, aujourd'hui ce qu'on veut montrer dans l'émission, c'est comment elle va faire que de l'enfance jusqu'à maintenant, on est progressivement dépossédé de notre corps. Le corps féminin, c'est donc, on l'a vu, assimilé à un pur outil de reproduction. Donc vraiment cette idée que c'est un ventre, le rôle de mère est idéalisé. D'ailleurs on lui reprochera plus tard cette idée de ventre, il y a beaucoup cette crainte d'être dévorée chez les artistes masculins, au point d'ailleurs d'avoir créé ce petit mythe du vagina dentata. J'ai même lu chez une autrice contemporaine absolument obscure que j'ai pas retrouvée, et je vais l'avouer pas forcément ardemment cherchée, que parce qu'elle est un ventre, la femme est égocentrique, qu'elle n'est du coup capable que d'écrire sur elle-même, et que son écriture est de ce fait condamnée à être mineure et narcissique. Donc c'est même pas la peine d'essayer d'écrire quand vous êtes une femme. On voit ici que ce statut de ventre va devenir progressivement un prétexte pour interdire aux femmes les rôles les plus essentiels. Alors Paul Gachon de Molène.
Le plus fort c'est Gachon, le plus sport c'est Gachon, quand il écrit un livre, personne mort comme Gachon.
Donc il écrit un très brûlable et très oubliable ouvrage qui s'intitule « À propos des femmes poètes » en 1842. Et donc il nous gâte avec le discours suivant. Comment appeler une créature dont le sein, destiné à allaiter des enfants et à renfermer les joies maternelles, demeure stérile et ne bat que pour des sentiments d'orgueil, dont la bouche, faite pour livrer passage à de tendres actions, s'ouvre pour prononcer de hardies et bruyantes paroles, dont les yeux, créés pour sourire, pour être doux et ignorants, sont pensifs, sévères, et quand certains éclairs les illuminent, laissent voir d'effrayantes profondeurs, enfin dont toutes les facultés et tous les organes ont pris une destination contraire à celle qui leur était assignée, comment appeler une pareille créature ? Donc il dit ça à propos des poétesses. Sa conclusion, c'est qu'on peut juste les appeler des monstres. Donc c'est vrai, 1842, ça peut paraître loin, sauf qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent comme ça. Donc four à pain, réceptacle, machine à bébé, la femme c'est encore et toujours en fait un objet.
Ma baby danse pour moi, emmène-moi où tu vas. Quand tu bouges comme cela, tu sais que j'aime trop ça. Faut que ça balance, en rythme et en cadence. Faut qu'à chaque fois que j'y pense, ça me mette en transe. Oh, il faut que ça soit chaud, c'est toi qui fais mon show. Je veux que tu danses sexy pour moi.
Un groupe qui porte bien son nom, Tragédie. On a parlé du corps prison, corps outil de reproduction, la femme ventre. On va aborder maintenant l'aspect du corps réifié, exhibé. On en parle suffisamment dans la société d'aujourd'hui, le corps féminin est un objet. Effectivement, au niveau étymologique, res veut dire la chose en latin, et donc réifier, ça veut dire traiter comme un objet. On va pas s'attarder là-dessus, si vous n'avez jamais remarqué des cas où la femme sert juste d'élément de décor, d'argument de vente, d'accessoire destiné à attirer le client, c'est que vous n'avez pas les yeux en face des trous. Maintenant qu'on est en pleine société post-humaniste, qu'on peut sans cesse modifier son corps par tous les moyens, il est devenu une chose façonnable, et la moindre influenceuse qui joue des filtres, du silicone, du maquillage et du sport intensif pourra vous le dire, on investit désormais sur un corps qui permettra de vendre des vêtements, des produits de beauté et des abonnements à la salle de sport. Et encore là, je parle de choses qui ont rapport au corps, mais les corps féminins servent aussi à vendre des yaourts ou des assurances.
Et puis même s'il est exhibé, en fait, le corps féminin est aussi caché. Alors, pourquoi caché ? Parce qu'en fait, on a décrété très tôt qu'il appartenait justement à cette sphère domestique, la maison, où on élève les enfants. Donc c'est la sphère privée, la sphère intime. Alors que tout ce qui est la sphère publique, la sphère de l'action, la sphère politique et sociale, c'est réservé aux hommes. Donc c'est une manière de la priver évidemment de son pouvoir politique et de la résumer à son pouvoir érotique. Le corps est diffamé, le corps est shamé, il est humilié. C'est pour ça qu'on peut observer dans les grands magasins qu'il y a un rayon estampillé hygiène féminine, laissant entendre qu'il y a vraiment une souillure du corps féminin, une idée de saleté. On nous vend des produits de beauté qui coûtent extrêmement cher et donc se rajoutent à la taxe rose féminine et ne sont pas du tout bons pour la santé. Le corps a été utilisé au fur et à mesure de l'histoire de la pensée humaine comme un prétexte pour exclure de manière radicale les femmes des sphères de décision que sont la politique et les professions intellectuelles. Alors il y a des très bons articles là-dessus. Nous, on vous recommande la sociologue Christine Détré dans Idées économiques et sociales, où elle montre que le discours médical a servi de base scientifique pour exclure les femmes, qu'on accusait d'être de constitution fragile, rapidement épuisée, de souffrir d'hystérie et d'avoir des aménorrhées quand elles étaient obligées de trop réfléchir. Donc on le voit, en fait, toutes ces stratégies-là pour essayer de cacher le corps, dire qu'il n'est pas comme il faut, qu'il ne faut pas le montrer, qu'il sent trop fort, qu'il doit rester à la maison, qu'il a trop de poils. Ce sont des manières d'abord de limiter le pouvoir d'achat, puisque du coup, ça coûte extrêmement cher de cacher ce corps et d'essayer de le trahir de cette manière-là. Et puis ensuite, ça recouvre un discours extrêmement dangereux, selon lequel ce corps féminin ne nous donne pas le droit d'exister sur l'agora, c'est-à-dire dans la sphère publique où se prennent les grandes décisions.
Et on en vient au corps agressé. On en a parlé dans l'émission précédente. Il y a un conditionnement du regard masculin et du rapport des féminins à ce corps qui l'édifie en objet d'abord, en objet fragile ensuite. On éduque les filles dans l'obsession que leur corps est fragile et faillible, comme tu disais tout à l'heure, Mareuil. Il est le lieu d'où peut venir le danger, la douleur. On nous fait croire qu'on n'a pas de résilience à la souffrance, alors qu'il faut en avoir sacrément pour supporter l'accouchement ou les règles pour les femmes qui en ont. On met en spectacle le bobo féminin en attendant des larmes. Les vêtements et les cheveux sont pensés pour nous fragiliser.
Donc, content d'être une chose, le corps féminin renvoie aussi en fait à l'animalité, donc objet ou animal, selon le regard occidental. Donc, les femmes ont longtemps été considérées comme des bêtes, toutes bonnes à faire surgir le désir masculin. Évidemment, la pensée chrétienne les a renvoyées à une source de péché, donc elles ont été exclues des rôles religieux, en tout cas ceux qui avaient le plus de pouvoir. On a inventé les succubes, les sorcières et toute une batterie d'autres êtres démoniaques. D'ailleurs, on en est arrivé à appeler les femmes le sexe jusqu'au 19e siècle, voire même au début du 20e, juste point, le sexe.
Je me charge, quand je rentre dans la boîte, j'ai la trique. Toutes les chattes des plus sans moi, c'est pratique. Elles vont frotter toute la nuit, puis je suis ton mac, alors si c'est ma vie gratuite, enseigne. Je donne des claques à ton cul et tu cries.
Donc bon, c'est un joli résumé de la place qu'on donne dans la société des bonhommes. Il suffit aussi de regarder à nouveau nos amis les mythes. La femme y est croisée avec toutes sortes de créatures pour créer des chimères, beaucoup plus que l'homme, qui, en fait, à part les cyclopes et les centaures, reste tranquillement dans son rôle de héros. On a les harpies qui aiment bien déféquer sur les humains, les sphinges qui dévorent les voyageurs ne répondant pas à leurs énigmes, les sirènes à corps d'oiseaux ou de poissons qui cherchent à attirer les marins, les érinies et les gorgones qui ont des cheveux de serpent. Enfin, bon, bref, la liste est longue, mais bizarrement, elle ne contient aucune créature positive.
Non, que des féminazis.
Cette animalisation, on la retrouve aussi en fait au final dans le langage de tous les jours, celui qui morcelle le corps de la femme comme non pas un ensemble mais plutôt des airs érotiques. Donc elle a des yeux de biche, elle a des jambes de gazelle entre lesquelles on peut trouver une chatte. On en vient d'ailleurs à ne plus utiliser le terme pour désigner la femelle pour éviter d'avoir des ricanements. La femme est tour à tour cochonne ou truie quand elle n'est pas une grosse vache, un thon, une grue ou une morue qui aurait en plus l'outrecuidance de faire l'étoile de mer.
Cette dernière expression bien connue nous amène à l'épineuse question du corps passif. L'idée que la pénétration implique un actif, un passif ou une passive, que l'un fait tout le travail et accomplit une performance, tandis que l'autre subit n'est qu'un réceptacle, un four à pain, à qui on demande ensuite son avis sur le service fourni, c'est grave.
C'était bien, ça t'a plu.
Toute personne pénétrée sait que l'acte d'accueillir un ou une autre en soi demande un gros travail à la fois mental et physique. Et par ailleurs, le diktat de la performance ne fait pas des victimes que chez les soi-disant passifs et passives. Les pénétrants en souffrent également.
Soit il est animalisé, agressé, on en fait une chose, il est là pour subir. Ou alors on peut carrément juste nier son existence. Alors là, c'est très visible par exemple dans l'exemple édifiant des mannequins de crash test. Il a été dénoncé que quand on organisait des crash tests, on le faisait sur des mannequins avec des proportions et des morphologies masculines et que du coup, les conductrices se retrouvaient en posture de danger automatiquement. C'est le cas aussi avec pas mal de tests médicamenteux, mais tout ça, on sera amené à en reparler pour la fameuse question des maladies de femmes. Un autre exemple assez édifiant de cette négation du corps féminin et donc de ses besoins, c'est la répartition des toilettes 50-50 dans l'espace public. Alors je pense que tout le monde s'est déjà retrouvé dans les situations drastiques auxquelles nous condamne l'absence totale de toilettes publiques. Les hommes ont cet avantage, en tout cas ceux qui sont appareillés, de pouvoir le faire dehors, même si personne ne les y encourage et ne souhaite voir ça. Mais pour une femme, ça devient beaucoup plus compliqué. Et pourtant, dans chaque lieu public, l'idée c'est qu'on va faire 50% toilettes masculines, 50% toilettes féminines. Je pense que tout le monde a pu déjà constater dans des événements public qu'il y a toujours la queue aux toilettes des femmes et pas aux toilettes des hommes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà dans les toilettes des hommes, il y a des parties fermées puis il y a des parties ouvertes. Donc ça dédouble les possibilités d'aller se soulager. Par ailleurs, la plupart du temps, ce sont les femmes qui emmènent les enfants aux toilettes pour des raisons évidentes qu'on n'a pas envie de faire passer les enfants à côté des urinoirs et pour la deuxième raison évidente que ce sont les femmes qui gèrent la charge mentale des enfants la plupart du temps. Que fait une femme aux toilettes? Dans le même endroit, elle va faire les deux commissions. Par ailleurs, elle est obligée de se déshabiller, ça prend plus de temps. Et puis, certaines ont leurs règles, et donc ça aussi, ça rajoute en temps. Donc si on prenait en compte les besoins des femmes aux toilettes et qu'on acceptait de répartir ça au prorata, on se retrouvait avec peut-être une répartition 70% de toilettes féminines, 30% de toilettes masculines. Et ça expliquerait pourquoi là, il y aurait déjà moins de queues, en fait. Ça permettrait de ventiler plus. Donc ça, il y a des sociologues qui se sont penchés là-dessus. Erving Goffman, dans l'arrangement des sexes, ou Julien Damon dans Les toilettes publiques, un droit social à aménager en milieu urbain, et qui montre qu'il faudrait plutôt des toilettes mixtes qui permettent de confronter notamment les jeunes aux problématiques rencontrées par les deux sexes, à les familiariser à ça et notamment à être moins dégoûtés par cette question des règles qui serait démystifiée. Ce cornier, c'est aussi ce qui amène en fait à vouloir faire disparaître son propre corps. La société le nie dans ses crash tests, dans ses tests médicamenteux, dans l'espace et la répartition de l'espace. Pourquoi nous, on n'aurait pas envie de le nier aussi? Donc l'anorexie, les vêtements, les parfums, tout ça, ça contribue à vouloir faire disparaître le corps féminin.
Un petit aparté sur la mixité des toilettes, ça prendrait aussi en compte le fait que le genre n'est pas binaire et que certaines personnes confrontées à des toilettes hommes ou femmes ne savent pas forcément où aller. Avec une petite solution, on résout pas mal de choses. Au-delà d'être nié, le corps peut également être amputé ou considéré comme incomplet. L'idée du vide qu'on a entre les cuisses et les théories psychanalytiques sur la question, merci Freud et tes problèmes avec ta maman, la terreur de la castration chez les hommes, la vulve qui est vue comme une absence, un vide d'organes génitaux, contrairement au pénis. Le spectre de cet inconscient collectif, lorsqu'il est mené à l'extrême, a des conséquences vraiment très graves sur les femmes. Je pense notamment à l'excision, où en fait, on va considérer que le clitoris des femmes est un appendice masculin dont elles doivent être privées. On peut aussi voir dans les injonctions au corps augmenté, le maquillage, les extensions, la manucure, la chirurgie, les UV, la teinture, la pensée du corps incomplet, insuffisant de la femme. Donc décorrélé de l'intellect et des émotions, le corps féminin peut ainsi être déshumanisé. On notera que notre insulte favorite, « pauvre con », sous-entend que cette partie du corps proprement féminine est sale et insultante, qui, être assimilée, est une injure.
Précisons quand même, si vous ne le savez pas, que le con, c'est la chatte, autrement dit, la vulve, autrement dit, l'organe génital féminin.
Et effectivement, il y a beaucoup d'injures masculines où les hommes vont être comparés à des femmes pour les humilier, les diminuer. Alors, si les Anglais sont plus inclusifs et inclusives avec leurs gros mots, effectivement, l'anglais est une langue qui est plus neutre que le français, qui est moins genrée en tout cas, puisqu'en anglais, on peut être traité de dick, c'est-à-dire de pénis. Il n'en reste pas moins que cunt, qui donc signifie chatte, et l'insulte suprême, c'est le genre qu'on utilise qu'en dernière extrémité.
Pour terminer sur cette question d'une dépossession culturelle et omniprésente, le mythe du jour c'est Pygmalion. On pourrait le résumer ainsi, toi aussi crée ta femme idéale de toutes pièces avec Pygmalion, qui est un peu l'incel de base, un homme qui donne naissance à sa poupée gonflable. Il façonne une belle statue, il en tombe terriblement amoureux, pleure toutes les larmes de son corps et finit par susciter la pitié d'Aphrodite qui accepte de donner la vie à sa statue. On remarque qu'on ne laisse pas la latitude à la statue de décider de ce qu'elle fera de ce corps qui ne lui appartient de toute façon pas. Ce mythe a tellement plu à la postérité que dans l'histoire de la pensée, il a fini par donner lieu à une expression dans la langue française. Hein, un Pygmalion, c'est un homme qui façonne une femme, qui la prend sous sa protection, sous son aile, et grâce à ses moyens et son capital socio-culturel, va lui permettre de s'élever dans la société. Gratuitement, bien sûr.
Tout ce qui est gratuit, c'est dangereux.
Action !
Vous écoutez Charbons Ardents sur Prune 92 FM. Dans cette rubrique, on décortique un objet culturel problématique pour montrer l'importance de ce qu'on regarde sur la construction de nos opinions, nos croyances et nos visions de nous-mêmes. On va parler make-up, on va parler fringues et Pretty Woman.
L'objet culturel problématique du jour, c'est l'immense cohorte des films, séries, webtoons, TikTok de makeover qui vous font croire qu'il suffit d'un peu de maquillage et d'enlever vos lunettes pour avoir droit de rejoindre la team des meufs qui appartiennent à un mec.
Lui, c'est Zach, le prince charmant du lycée. Il sortait avec la reine de la promo 98, mais elle l'a planté. Alors pour redorer son blason, il a accepté un pari foireux.
Je choisis la fille et tu as 6 semaines pour la transformer en reine de beauté.
Transformer qui, moi ?
Je me demandais si ça te plairait. De me ridiculiser devant tous mes potes.
Alors, le makeover ou relooking,
on n'a apparemment pas eu envie de lui donner un nom français.
Oui, ou alors c'est rénovation et ça va vraiment pas. Alors, qu'est-ce que c'est que le relooking ? Central dans le genre de la rom-com, la comédie romantique, le makeover a gagné le monde des séries, notamment par le biais des très diffusés Ugly Betty et sa version originale allemande, Le destin de Lisa.
Souvenir, souvenir.
Pourtant, on peut faire remonter les premiers makeovers aux contes de fées, qui sont, avec les mythes, parmi les meilleurs soutiens de la culture du viol. Qui ne se souvient pas avec émotion des relookings magiques de Cendrillon, d'Aurore et de la Belle, et plus terre à terre,
ou devrions-nous dire mère à terme,
c'est mon genre d'humour, Ariel, qui passe du peigne fourchette et de la robe en sac à patates à une tenue plus distinguée, qui suscite l'admiration de tous et toutes, crabes et poissons compris.
Le principe est clair, on déniche une actrice, de préférence fort belle, que l'on va grossièrement en les dire.
J'espère que tout le monde entend les R guillemets.
À coups d'artifices grossiers, maquillage, vêtements informes, appareils dentaires, lunettes, perruques même, si besoin.
Et fat suit parfois.
Le public pourra dire ce qu'il veut, qu'elle est quand même belle ou à tout le moins ordinaire.
Attention, c'est une insulte, on le rappelle.
C'est vrai, c'est insultant. Les personnages, eux, à la manière d'une Lois Lane flouée par une paire de lunettes sur l'identité de Superman, ne voient qu'un monstre qu'ils préféreraient voir mourir qu'avoir à toucher avec un bâton ou même assister pour un devoir d'SVT. Donc invisible aux yeux de la gente masculine qu'elle brigue pourtant, objet de risée de tout le reste du casting, la soi-disant moche va suivre bien des péripéties avant de trouver un riche mécène prêt à investir pour pimper sa prochaine proie sexuelle. Ou si c'est pas un riche mécène, ce sera une bonne fée, un ou une pote fan de shopping, ou à la limite une équipe de 5 gays surexcités qui insisteront pour lui peigner la tignasse, lui retirer ses culs de bouteille et son appareil dont elle n'avait en fait, au miracle de la science, jamais eu besoin.
Il est bien connu qu'on est prêt à claquer des centaines d'euros d'ophtalmo et d'orthodontiste juste pour faire genre.
Exactement. Le but est de la faire ressortir de magasins luxueux avec pléthore de sacs estampillés des plus grandes marques. Pas le moment d'aller dévaliser Tati, non mais oh !
Pretty Woman. Alors, pourquoi, me direz-vous, ça pose problème ? Après tout, les laiderons aussi ont le droit à l'amour et à la confiance en soi. Si ce genre fonctionne aussi bien, notamment aux abords de Noël, c'est qu'il est rassurant de voir qu'on peut encore et toujours se métamorphoser pour rentrer dans nos amis, les cases.
Bon, bah ça déjà, ça pose un sacré problème. D'abord, on prend toujours un canon de base pour jouer le rôle de la moche.
Encore et toujours les R guillemets.
Donc la transformation, en réalité, n'est pas une transformation. Ça consiste juste à lui redonner son état de départ, un peu comme le bisou à la grenouille censé redevenir prince. Bonjour l'arnaque. Connaissant le nombre d'actrices dont le physique n'est pas jugé assez attrayant pour remplir la majorité des rôles.
Même pour jouer une femme de ménage, il faut être Egeri Kenzo, n'est-ce pas les producteurs de Maid ?
Bah oui, parce que malgré leur talent, nombreux sont les actrices qui se sont déjà entendues dire qu'elles étaient trop vieilles, pas assez belles pour interpréter certains rôles. Donc là, on se dit, pourquoi recourir encore à celles qui sont jugées de base canon ? Les mêmes à qui on donne d'ailleurs un Oscar quand elles font le sacrifice de s'en les dire pour un rôle, qu'importe leur piètre performance. Cass-Dédie, Nicole Kidman en Virginia Woolf, on fait pas mieux en guise d'abnégation que de se greffer un grand nez, quel courage.
Moi, j'ai un directeur de théâtre qui m'a dit un jour que j'étais trop grosse pour être actrice, mais pas assez grosse pour jouer une grosse. Voilà, voilà. Alors ensuite, ces films sont bien évidemment un véhicule en or pour les clichés sexistes. Porter des lunettes, un appareil, ne pas se faire de lissage brésilien, ni passer 30 ans à se faire des boucles soyeuses, éviter le maquillage, porter des fringues vintage, faire du 38, oh mon dieu. Voilà les tares que le makeover ne pardonne pas. Loin de nous inciter à nous accepter, ces films, séries et autres supports visuels montrent ces caractéristiques, somme toute extrêmement communes, comme des éléments d'un costume totalement bouffonnesque qui nous condamnerait automatiquement à entrer dans la catégorie aborée de la laideur. Madge, vous êtes laide, pour ceux et celles qui connaissent
le cœur à ça.
Ah oui, j'adore. Le résultat est toujours d'un conformisme sidérant, le vilain petit canard finissant par ressembler trait pour trait aux filles populaires et autres cheerleaders qui la bousculaient contre son casier en riant de toutes leurs dents aussi blanches que leur peau de blanche.
Enfin, ces fictions sont un parfait véhicule du consumérisme, comme Cendrillon, ou Belle, ou encore Aurore, La période dans les bois, comme l'escorte Vivian Ward, a.k.a. Julia Roberts dans Pretty Woman, ou Marissa Ventura, l'employée d'hôtel qu'incarne Jennifer Lopez dans Coup de foudre à Manhattan. La plupart des victimes du makeover sont pauvres, de catégories sociales défavorisées, et tombent sous le charme d'un riche qu'elles ne sauront séduire que par l'argent investi dans leur transformation. Argent investi soit par lui, parfaitement dans son rôle de Pygmalion, soit par une intervention extérieure dont il ne doit rien savoir. Le makeover permettrait donc, beaucoup mieux que les études ou les réformes du gouvernement, d'abolir les frontières sociales. Et le message est clair, si vous investissez suffisamment dans votre physique, vous pourrez faire fi du déterminisme social qui condamnait un personnage très souvent intelligent et doué à l'école à être totalement invisible. C'est à ce seul prix qu'on peut devenir personnage principal plutôt que copine faire valoir.
Et les exemples ne manquent pas. L'un d'entre eux, de manière désolante, occupe la première place sur Webtoon, qui est une plateforme coréenne qui diffuse des mangas, BD et romans graphiques. La plus lue s'appelle True Beauty,
vraie beauté,
met en scène une jeune fille qui se juge très laide, ce que lui confirme à intervalles réguliers sa sœur et son frère. Sa chance, elle est douée en maquillage et peut donc changer radicalement de visage. Elle attire grâce à ça un fils d'acteur très riche et une future star du K-pop, qui sont incapables de la reconnaître sans son maquillage. Et oui, le syndrome de Clark Kent. Mais qui lui assure pourtant l'aimer telle qu'elle est. La jeune héroïne se juge régulièrement grosse avec son 1m69 pour 50 kg.
Comme explique.
Et réitère à intervalles réguliers qu'elle est affreuse parce qu'elle a des boutons.
Sans aucun doute causé par un surplus de maquillage.
On n'insiste pas assez sur la nécessité du démaquillant. Et donc elle ne dispose pas de double paupière non plus, comme la majorité des personnes asiatiques, mais on voit là encore jusqu'où le malaise de la mondialisation blanche peut aller.
Si ces aventures semblent devoir rassurer les lecteurs et lectrices sur leur possibilité de séduire un jour des garçons jugés inaccessibles, hein, les chanteurs de K-pop, c'est quand même le must, elles véhiculent en réalité d'épouvantables clichés. Parce que les personnages ne pensent qu'à sortir ensemble, d'ailleurs au point d'en délaisser leurs études. Les amitiés reposent sur le physique, de même que les rivalités, donnant à voir une totale impossibilité de sororité féminine. Toute leur vie est rythmée par leur succès sur Instagram, soit grâce aux filtres, soit grâce au maquillage et baskets et autres vêtements hors de prix. L'autrice recourt au même procédé de placement de produits que les influenceurs et les influenceuses habituelles, mais sous couvert de permettre à tout le monde les mêmes transformations épuisantes et coûteuses que le personnage, qui n'est jamais encouragé à s'assumer telle qu'elle est. Donc le titre est quand même très mensonger de ce point de vue-là. True Beauty, c'est juste l'investissement dans des manières de se masquer. Sur une plateforme comme Webtoon, qui touche énormément d'adolescents et d'adolescentes déjà exposés au matraquage des sponsors Insta, on se demande bien en quoi ça pourrait aider à se réapproprier son corps plutôt qu'à le cacher.
Je suis qu'une petite bête sur les réseaux, petite butante sous des logos. Je suis qu'une petite bête télé-radio, prospectus dans les journaux. Je suis qu'une petite bête dans les métros, je suis qu'une petite bête pour les blaireaux. Je suis qu'une petite putain de collabo, petite michto dans le caniveau.
Attention cependant, il n'est pas question pour nous de dénigrer l'art des maquilleuses et maquilleurs, ni des designers de vêtements, dont on peut avoir un très bel échantillon d'ailleurs dans certaines émissions, et notamment la dernière saison de Glow Up, qui a fait des pas de géant sur son validisme et son inclusivité depuis ses débuts. Valoriser la personne, favoriser son besoin de se sentir confiante en elle, faire ressortir ses qualités, sont autant d'armes dont il est tout à fait possible de bien se servir avec la bonne mentalité.
Quand ça va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse.
Aujourd'hui, dans Charbons Ardents, on parle du corps, les multiples voies de s'en faire déposséder et pourquoi pas les manières de se le réapproprier, reclaim your body. Vous êtes sur Prune et dans cette rubrique, on va parler d'armes pour créer un autre imaginaire, une autre culture que celle du viol.
Et c'est pas plus mal. Alors on va commencer par les réseaux sociaux. Mareuil, tu parlais tout à l'heure de webtoon et des influenceuses, histoire d'alterner entre les corps impossibles et les visages retouchés. On vous conseille d'aller voir des comptes body positive qui mettent à l'honneur la diversité infinie de nos morphologies, des formes d'humanité, des manières multiples et radieuses d'être vivante et d'être femme. Aujourd'hui, on vous en a sélectionné deux qu'on mettra en lien sur le site de Prune. On a Corps Cool. Donc Corps Cool montre à la fois des corps, et notamment des corps gros, différents de ce qu'on peut voir même dans les pubs pour grande taille, et présente une réflexion intéressante sur le fait d'être gros dans la société et les mécanismes de la grossophobie. On a également le compte Girl Gaze. Girl Gaze, c'est une plateforme qui regroupe des créatrices féminines et non-binaires, qui leur permet en fait de se regrouper, de présenter leur portfolio et d'être démarchés par des entreprises qui veulent montrer un autre visage de la femme et notamment pas mal de femmes racisées.
Histoire de bouquiner aussi, aujourd'hui le roman qu'on vous propose c'est L'œil le plus bleu du prix Nobel de littérature Toni Morrison. Ce roman suit trois petites filles noires et se concentre notamment sur une dont le plus grand rêve est d'avoir des yeux bleus. Alors c'est un roman très dur, gros trigger warning dessus, mais en même temps c'est un roman aussi nécessaire. Le personnage de Pecola permet de cristalliser ce que peuvent faire les diktats de la société sur un corps féminin, à la fois parce que le regard érotisant qui est porté sur le corps féminin la condamne à une tragédie horrifiante, mais aussi parce que en tant que fille noire, le diktat dépossédant, ici, il joue aussi dans le désir d'être blanche et d'avoir des caractéristiques de femme blanche. Donc double diktat, voire même quadruple, voire même au centuple à ce stade-là.
On a également un autre livre, donc cette fois pas un roman, mais plutôt un livre militant. L'édition actualisée de l'ouvrage Notre corps, nous-mêmes, qui a été écrit à la base en 1973 et publié en français en 1977. Et là, on a affaire à une version réactualisée 2021, écrite par un collectif constitué de Mathilde Bléza, Naïke Dekel, Mounia Elkotny, Nina Faure, Nati Fofana, Hélène de Gainsbourg, Marie Herman, Nana Kinski et Yelena Perret. C'est un livre nécessaire dans lequel on trouve des rubriques aussi variées que riposter pendant une altercation, des conseils pour accompagner la transition d'un ou d'une proche, ou même comment se masturber.
Hola amigos, presentamos este programa Latin
Melody. Pero con sentimiento de la calle.
In authentic Latin beat.
For all of my people, negros and latinos. And even the gringos.
Pero si quieren saber un poco más de qué se trata,
quédense unos minutos con nosotros.
Histoire de mater, parce qu'on ne va pas passer notre temps dans les bouquins, on vous conseille d'aller voir ou revoir l'extraordinaire série Broad City, qui est malheureusement difficile à trouver, mais qui vaut vraiment la peine. Donc, c'est une série d'Ilana Glazer et Abby Jacobson, qui est sortie entre 2014 et 2019. C'est déjà fini, hélas. Mais donc, on peut bénéficier de 5 saisons, 50 épisodes. Cette série qui est assez en avance, surtout le mouvement de la quatrième vague féministe, propose vraiment un travail de réappropriation du corps à travers ces deux personnages féminins qui n'en ont pas grand-chose à faire des diktats, donc à la fois dans la visibilisation des règles, dans les pratiques sexuelles alternatives, dans la variété des morphologies. C'est une série qui fait beaucoup de bien et qui permet par l'humour de vraiment dénoncer et de montrer des voies de réappropriation de soi.
I first met Jennifer through a friend of mine on the Lower East Side of New York City. She's a circus director, a performance artist, and a clown. It was at a time when I was struggling with my own identity as a feminist. I was asking different women if they defined themselves as feminist and what that really meant to them.
Pour continuer sur des choses à voir avec les yeux, un documentaire de 1992, Jonglé avec les genres, Jennifer, la femme à barbe, ou alors Juggling Gender en anglais, monté par Tammy Gold. C'est un documentaire qui porte sur Jennifer Miller, qui est une activiste féministe, performeuse, clown, et accessoirement, une femme lesbienne et une femme à barbe. Le documentaire vient questionner l'identité de genre, la perception qu'on a des normes, des clichés, et la corrélation entre le sexe, l'identité de genre et la sexualité.
Les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux.
Dans Feu à volonté, Charbons Ardents vous propose une analyse de mots. Un mot qui fâche, un mot incompréhensible, dont on n'ose pas demander le sens, un mot qu'il faudrait remettre au goût du jour, ou autre. Aujourd'hui, ce sera un mot qui fâche, encore une fois. Vous êtes sur Prune, et on parle langage, culture, et violence patriarcale, rien que ça, mazette.
Pour rebondir un petit peu sur ce mythe de l'étoile de mer et sur le propos de Chat tout à l'heure, on va reparler de cette idée de passive, de passivité dans le sexe. Alors c'est quoi être passive? Donc déjà, pour remonter aux origines, il faut savoir que c'est emprunté au latin ecclésiastique. Donc bon, une source dont on ne va pas se revendiquer. Et ça signifie susceptible de subir, souffrir. C'est également emprunté au verbe patior, qui signifie souffrir. D'ailleurs, on l'a en français sous la forme pâtir de quelque chose. Hein, c'est vraiment subir dans la souffrance. Là déjà, de base, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut associer aux relations sexuelles, cette idée de subir et souffrir?
Personnellement, non.
Oh, ce soir, tu vas prendre... Tu vas prendre comme si je sortais de prison après 20 ans de réclusion. Oh, tu vas prendre, oui, tu vas prendre. J'ai vu des culs toute la journée, tant pis, c'est toi qui vas payer. Oh, tu vas prendre.
On peut le relier à d'autres termes tout aussi positifs pour décrire l'acte charnel, par exemple. Prendre ou posséder quelqu'un, quelqu'une, qui a son usage, comme d'habitude, pronominal, se faire prendre. Donc, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de verbe d'action pour le fait de se faire pénétrer. Hein, c'est vraiment toujours cette idée d'une passivité totale. Donc, on ne contribue pas, on ne participe pas à l'acte. Hein, c'est vraiment juste la personne qui plante la graine, qui fait tout le travail et qui en retire les lauriers et le plaisir. Et donc, là, ça condamne la personne en face à être un pur réceptacle. On notera aussi que pénétrant, c'est un terme amélioratif qui est synonyme d'intelligence, de pertinence, de clairvoyance. Donc voilà, l'idée de passivité fait vraiment de nous un objet, ni plus ni moins qu'une éponge ou une chaussette. Et puis par contre, on associe à la pénétration absolument toute la gloire, y compris même l'intelligence. Donc c'est effroyablement problématique que d'utiliser une dichotomie passif-actif qui rejaillit ensuite dans plein de systèmes de hiérarchisation et d'insultes tels que pédale, femmelette et étoile de mer, pour y revenir.
Il me semble qu'il y a certaines cultures où on fait une distinction dans le cas de l'homosexualité masculine entre justement le fait d'être le pénétrant et du coup finalement c'est pas si péché que ça, et puis le fait d'être le pénétré où là bah, c'est grave.
Pour terminer, l'idée de Charbons Ardents, c'est de vous proposer de quoi vous constituer une boîte à outils de lutte, parce qu'on n'a pas tous le temps, l'envie, l'énergie, la possibilité ou l'argent de militer, de se lancer dans la politique ou de lutter avec le patron qui nous félicite de porter une jupe pour une fois. Quelques alternatives pour vous impliquer à votre échelle, parce que le changement, ça commence déjà par soi.
Et oui, et aujourd'hui, on vous propose de vous intéresser aux tatouages, et notamment aux tatouages qui consistent à couvrir des blessures, des cicatrices, des brûlures. On va interviewer Héloïse. Héloïse qui fait partie de l'association Sœurs d'encre, qui est spécialisée justement dans le tatouage de couverture. Héloïse qui a son atelier Douce Métamorphose à Chantosseau, donc c'est proche d'Oudon, pas très loin de chez nous, à Nantes. Voilà, on l'écoute. Alors Héloïse, devenir tatoueuse, ça part souvent d'une vocation. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du parcours qui t'a amenée à ce métier ?
J'ai eu un parcours professionnel un peu chaotique. Je ne suis pas venue au tatouage tout de suite. Ça a été une reconversion un peu sur le tard, entre guillemets. J'ai fait plusieurs métiers, dont notamment mon premier métier, c'était esthéticienne. Et en parallèle, en fait, je faisais de la peinture, beaucoup de dessins. Et puis mon parcours professionnel a été marqué en fait par le... il a vraiment été conditionné par le décès de ma maman finalement, parce que je travaillais avec elle en tant qu'esthéticienne. On travaillait ensemble et je l'ai perdue d'un cancer du sein. Donc en fait derrière, j'ai pas repris l'institut et j'ai fait des métiers alimentaires après. Faisant du dessin, de la peinture, progressivement l'idée a germé en moi et à un moment donné j'ai réussi, enfin tous les indicateurs étaient ouverts et j'ai pu me lancer en fait à ce moment-là. Vraiment il y avait cet amour du dessin et de pouvoir l'ancrer dans la peau avec effectivement en toile de fond un peu ce désir peut-être un jour de pouvoir le faire sur cicatrice, mais j'avais vraiment envie de vivre d'un métier artistique. Il s'est imposé à moi. J'étais passionnée depuis tatouage depuis longtemps. Ça m'intéressait beaucoup. Donc, mais ça a mis 7-8 ans pour que je puisse acter les choses.
On a eu la chance de découvrir ton travail sur Instagram. Comment est-ce que tu pourrais définir ton style pour nos auditrices ?
C'est un style qui se veut délicat, avec des fleurs et des ornements. L'idée pour moi c'est de travailler dans la finesse. Alors après j'ai pas cherché à avoir un style en particulier, hein, parce que j'ai toujours dessiné comme ça, mais il y a cette envie de finesse et de délicatesse, un petit peu de poésie autour du floral par moment, et comment je pourrais définir un peu mon style.
Du coup, tu parlais tout à l'heure de la couverture. C'est vrai que c'est une pratique bien spécifique dans le monde du tatouage, et d'autant plus quand il s'agit de recouvrir des cicatrices. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la démarche qui t'a amené à pratiquer la couverture de manière exclusive ?
À un moment donné, donc j'avais un peu ça en tête, mais bon, ça peut sembler un peu loin. Est-ce qu'on est capable ? Est-ce que voilà, ça me semblait loin, mais il y a un moment donné où quand même je me suis rendu compte que le fait d'ancrer la peau était un outil formidable en fait. De manière très personnelle, je me voyais pas le garder pour un usage purement ornemental, mais je voulais qu'il y ait une utilité en fait dans ma pratique du tatouage. Et on a commencé à me faire confiance à ce niveau-là. Je me suis engagée avec l'association Sœurs d'encre, qui est une association bordelaise qui accompagne les femmes post-cancer du sein. Et moi, en tant que tatoueuse engagée, j'offre une fois par an un tatouage à une femme qui a subi une mastectomie. Donc on est formé aussi au niveau du recouvrement de cicatrices. Et puis le fait de commencer à en faire, je me suis rendu compte que ça prenait sens pour moi, quoi. C'était ça que j'avais à faire. Même si je peux apprécier de temps en temps, bien évidemment, même régulièrement, de faire du tatouage autre, hein, où il n'y a pas forcément de cicatrices, je dirais, visibles. Le sens que je veux donner à mon travail, in fine, c'est vraiment ça, le recouvrement de cicatrices, ouais. Et de cicatrices de tout type, hein. On peut même être sur des brûlures, des cicatrices d'accidents, suite à des maladies ou autres. Il y a beaucoup, beaucoup de cicatrices qui peuvent quand même être couvertes, donc voilà.
Et est-ce que tu penses que le tatouage, en général, permet aux gens de s'approprier ou de se réapproprier leur corps ?
Totalement, je pense qu'aujourd'hui on vit dans une société où tout est ultra formaté, on attend beaucoup de nous, de nos corps, de répondre à des normes. Et en fait, donc il y a vraiment, je pense, pour sans parler de cicatrices, avec le tatouage, on se réapproprie notre corps, on peut écrire notre histoire, l'histoire qu'on a envie d'écrire sur nous, qui peut être purement esthétique ou vraiment en fonction des étapes de notre vie, on va venir ancrer des choses. On devient unique de par le tatouage, et pour le recouvrement de cicatrices, ça prend encore une autre dimension, parce qu'on subit la maladie ou l'accident, on subit l'opération, cette cicatrice que l'on n'a pas vraiment désirée, voulu du tout. Et le tatouage, voilà, on vient démarrer une nouvelle page, on vient mettre du beau sur la douleur en fait. À ce moment précis, on se réapproprie son corps et on décide, on devient acteur de ce que l'on veut sur notre corps.
Est-ce que tu as constaté un mieux-être chez tes clients et clientes de manière générale après le passage sous tes aiguilles ?
Oui, oui, oui. Alors, on peut vraiment constater pour les retours que je peux avoir des clientes qu'il y a déjà, ça leur permet de passer à autre chose, de se regarder dans le miroir avec plus de bienveillance, Voilà, j'ai des clientes qui m'avaient transmis qu'elles n'arrivaient plus à se regarder dans le miroir ou à se mettre en maillot de bain ou voilà, des situations un petit peu compliquées et ça a permis à ces personnes-là effectivement de pouvoir passer à autre chose et de se réconcilier avec une partie de leur image. Ouais. Et puis une victoire aussi, de réussir à franchir le cap, d'avoir le courage de passer aussi à autre chose, hein, de tourner la page, de dire au revoir au passé. Et c'est pas forcément évident aussi, des fois, de dire au revoir à ce qui nous fait mal, à ce qui nous fait souffrir. Donc, c'est des personnes souvent très courageuses que je rencontre. Et effectivement, ça change une partie de leur quotidien, ouais.
Oui, j'imagine que parfois on se construit avec notre douleur et que du coup vouloir la quitter, c'est aussi avoir peur de perdre une partie de soi, alors que en fait c'est pas ça qui nous définit, quoi.
Tout à fait, mais malheureusement des fois on se construit aussi un peu socialement avec les épreuves et la douleur et oui, le fait des fois de passer à autre chose peut être compliqué, ça peut mettre du temps, donc. Mais oui, ça a cet effet-là de permettre de démarrer, que ces personnes-là puissent démarrer autre chose. Ouais.
Bah écoute, merci beaucoup Héloïse. On mettra tes coordonnées sur la page du podcast. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ça nous a fait très plaisir.
Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup.
Et puis peut-être à une prochaine alors.
Avec grand plaisir.
On va se quitter là pour aujourd'hui. La liste est encore longue des mécanismes et diktats qui nous dépossèdent de ce corps, nous incitent à le modifier, le masquer, l'oblitérer. La liste est longue aussi des armes pour se le réapproprier comme c'est notre droit. On développera dans d'autres émissions les questions plus spécifiques des maladies dites de femmes, de la grossophobie, du validisme et autres ressorts de notre mal-être. Le mois prochain, on se concentrera sur l'épineuse question du consentement. Le donner, le recevoir, apprendre à tracer nos frontières, tout un art auquel notre civilisation millénaire commence tout juste à s'ouvrir avec encore bien des ratés.
Et si vous souhaitez témoigner anonymement sur ce sujet ou sur un autre qui vous tiendrait à cœur, vous pouvez nous contacter sur les réseaux via la page de l'émission. À bientôt! Pour rester sur des charbons ardents, retrouvez le podcast de l'émission sur www.prune.net.